Aujourd'hui à Aéropod, pour ce 11e épisode, on fait le tour des brèves de la semaine et on a une chronique du prof Cormier. Bienvenue à Aéropod, le podcast des pros de l'aviation, une production de Mentor Aéro et des Ailes du Québec. Une fois de plus, je suis seule en studio avec André Allard, éditeur des Ailes du Québec.
Bonjour Claudia, bonjour tout le monde.
Bonjour chers auditeurs. Alors, on saute directement dans nos brèves de la semaine, André, parce qu'on a beaucoup de terrain à couvrir aujourd'hui.
OK, ben j'ai une question pour toi.
Vas-y donc.
Est-ce que tu connais le vieux dicton « les absents ont toujours tort » ?
Oui.
Il y a quelqu'un, un collaborateur habituel de l'équipe, qui a tort aujourd'hui. On ne veut pas le nommer, mais salut Greg. On espère que tu vas revenir bientôt.
On ne sait pas exactement par rapport à quoi, là, mais tu n'as pas raison.
Okay. Exact. T'es pas là, t'as tort.
Donc, on va faire tout de suite un retour sur un des sujets qu'on a couvert la semaine dernière.
Oui.
On y va un petit peu au fur et à mesure avec l'information qu'on a et des fois, ça donne des glitches. Et c'est ça qui est arrivé cette fois-là. On a blâmé Pratt & Whitney Canada pour les moteurs du A320 Neo d'Indigo qui posaient problème. Finalement,
c'est peut-être pas juste Pratt qui a la faute.
Raconte.
Ben, écoute, le wrap-up rapide de la semaine passée, c'est que la FAA se préparait, avait émis la possibilité d'envoyer une consigne de navigabilité, pardon, afin de faire remplacer les compresseurs basse pression sur les PW1100G JM, comme ceux qui sont sur Indigo et qui causent des problèmes. Et on a enregistré l'émission le vendredi matin. Le vendredi après-midi, j'arrive chez moi, je suis mes nouvelles et pof, je tombe sur cette information-là. Finalement, le problème des moteurs PW, de cette gamme de moteurs-là, ça serait surtout limité à Indigo parce que Indigo, les pilotes, quand ils décollent, ils laissent les moteurs à pleine puissance juste qu'à l'altitude de croisière. Ce qui fait que les moteurs sont surcharger la force, le travail, la surcharge de travail sur une longue période en montée, ça surcharge les moteurs. Et ça pourrait être une explication possible pourquoi ce problème-là survient surtout avec Indigo.
Mais on sait, oui, parce que c'est pas exclusif à ce transporteur-là. Et on sait aussi que Pratt avait eu des problèmes avec la métallurgie sur ces moteurs-là. Et donc, probablement une combinaison de plusieurs facteurs, mais disons qu'on les aide pas du tout en étant un peu agressif sur la conduite.
Oui, puis on sait qu'en Inde, les conditions d'opération sont plus difficiles parce que l'air, il y a beaucoup de poussière, particules en suspension dans l'air. Donc, d'abrasif au moment où les moteurs sont au décollage. Donc, c'est peut-être un ensemble de tout ça. Ça dit, ça demeure un problème pour Pratt & Whitney parce que tes moteurs, ils sont supposés de fonctionner partout sur la planète. Mais c'est moins sérieux dans la mesure où tu seras peut-être pas obligé de corriger tous les moteurs en service. Il va falloir que tu trouves une modification qui va permettre à un moment donné à Indigo d'opérer ses avions comme tout le monde finalement et dans des conditions normales, bien entendu.
Ouais. Quand même. On attend donc plus d'informations. C'est un peu moins certain que ce qu'on pensait au départ, mais il va y avoir des correctifs qui vont être apportés d'une manière ou d'une autre. En attendant, la solution, c'est de se calmer un petit peu sur l'usage du moteur.
Moi, c'est ça. Normalement, moi, je comprends pas que tu mettes, en tout cas, continuellement ton moteur à 100% du setting opérationnel tout le long de la montée. C'est plus dans les pratiques d'aujourd'hui. On voit plus ça souvent.
Qu'est-ce que ce serait l'objectif de ça? On va sauver 10 secondes?
Tu sauves pas. Tu montes en altitude de croisière plus rapidement et tu consommes plus de carburant. Puis comme tu maintiens les chambres de combustion à une plus haute température, tu risques plus de détériorer les chambres de combustion aussi. Il y a tout un enchaînement et c'est pour ça que les compagnies, une fois normalement que tu as atteint une altitude de 3 à 5 000 pieds, au-dessus du sol, donc une altitude qui te permettrait de faire un demi-tour et de revenir te poser, tu vas réduire la puissance des moteurs. Parce que là, tu n'en as plus de besoin. Fait que tu vas réduire à 94-95% de la puissance du maximum opérationnel. Comme ça, tu es en...
Là, si j'ai bien compris, ils se sont fait limiter à 93%,
c'est ça? Dans le cas d'Indigo, c'était pas 93. Il n'y a pas eu de limite précise.
Oh, d'accord.
C'était c'était pour Suisse puis les moteurs PW1500.
Je suis complètement sur une autre histoire, moi, là.
Et voilà. Donc, c'est une histoire séparée. Il n'y a pas vraiment, mais là, il va falloir que les Indigo s'installent avec ses pilotes. Puis, regarde, il y a des petites économies des carburants à aller chercher de toute façon.
Mm-hmm.
Alors, c'est dans l'intérêt d'Indigo et des pilotes de le faire.
Bon, en théorie, gagnant-gagnant, reste que ça paraît un peu mal sur un programme récent.
Ouais, c'est toujours ça. Puis ça vient ajouter au reste. Fait que ça, comme, ça crée de la mauvaise publicité à l'entour du programme.
Ouais, ouais, OK. Ben, on va arrêter d'en faire, justement. mais parlant de mauvaise publicité, revenons avec notre cancre de service, Boeing mise à l'amende.
Oh, j'aime le mot cancre de service. C'est à toutes les semaines. Hein. C'est rendu maintenant, ouais. Eux autres, il y a toujours quelque chose qui sort sur Boeing.
Cette semaine, chez Boeing, et c'est toujours du trouble.
Oui.
Mm.
Et là, la dernière en liste, écoute, samedi dernier, la FAA a publié un communiqué de presse pour dire qu'ils mettaient la Boeing à l'amende pour 3,2 millions.
Mm-hmm.
Bon, 3,2 millions, c'est une belle amende, mais on s'entend que quand tu faisais 10 milliards de profits par année et plus, c'est pas...
De profit. Ouais, pas de chiffre d'affaires, là. Oui, oui.
De profit. Okay, puis que tu rachetais des, en tout cas, tu rachetais des actions, puis tout ça, en tout cas. Quand tu fais autant d'argent, 3,2 millions, c'est pas énorme.
Non,
le
non.
problème, voici, il est le suivant.
Mm-hmm.
Le fournisseur des rails pour les becs de bord d'attaque, ce qu'on appelle communément les slats.
Mm-hmm.
Hein? Donc, les slat track, à un moment donné, il y a eu un lot de défectueux.
Mm-hmm.
Et là, le fournisseur, le fabricant, ce fabricant-là, a averti Spirit Aerosystems, qui passait ces fameuses rails-là, pour dire, ben là, écoute, on a une batch ici, là, tu ne peux pas installer ça, ils n'ont pas rencontré, il faut faire telle mesure. Spirit a averti Boeing, Boeing a dit, ah oui, OK, correct, mais plutôt que de faire procédure X, on va prendre la procédure Y, puis nanana, puis finalement, les fameuses rails en question ont été installés sur à peu près 133, 139 Boeing 737, comme si de rien n'était.
Pas une petite batch, là.
Non, c'est une grosse batch. Il y a eu une directive, il y a eu une consigne de navigabilité cet été des mises là-dessus.
Mm-hmm.
Il y a eu un rappel pour les. Il y avait identifié les avions à peu près.
Mais c'est quoi le risque potentiel de ça, là?
Ben, écoute, ça peut craquer, ça peut casser. Donc, ça se peut que tes barres d'attaque soient déployées inégalement, se rétractent inégalement, qu'ils brisent pendant la rétractation et tout ça.
Super. Ça ouais. sonne bien.
Regarde, c'est pas automatiquement un accident mortel, mais on s'entend que ça joue avec la portance d'avion. C'est pas l'idéal, mettons. C'est pas des situations idéales, OK?
Mm-hmm.
Fait que c'est pas une... Puis on sait pas exactement pourquoi Boeing a installé ça. Là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas si grave, on les installe. »
On se demande présentement si c'est malicieux, donc de l'incompétence, si c'est de l'incompétence ou bien de la fraude. C'est ça la question.
La question, c'est ça. Il n'y a pas de preuve de fraude, donc on n'avancera pas trop dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
Mais c'est parce que, regarde, t'es Boeing. t'es pas Joe Garage, t'es pas un gars qui fabrique deux, trois avions artisanaux pour des clients là, dans un champ. Là.
On devrait être capable de te faire confiance.
Puis là, tu sais, écoute, ils ont présenté la semaine passée aussi, Boeing, ils ont rencontré les intervenants de l'industrie, tu sais, pour leur présenter le retour en service du MAX. Puis là, ils ont présenté toutes les nouvelles mesures pour la sécurité, les nouveaux programmes. T'es pas supposé mettre ça en place. T'es supposé l'avoir déjà.
Ouais, c'est weird, là, quand même. C'est comme, ça me rappelle McDo qui disait « Maintenant, nos croquettes sont faites avec de la viande blanche. » Puis tout le monde avait fait « Hein? C'était pas ça avant? »
Et voilà. Et voilà, tu l'as l'affaire, tu sais. Puis... C'est triste à mourir de voir l'évolution de cette compagnie-là en ce moment. Elle s'en va pas dans la bonne direction.
Mm.
Ils n'ont pas arrêté de dire aux gens « Ah oui, l'avion va retourner en service. » Au début, c'était au début de l'été, début juillet.
Mm-hmm.
Après ça, ça a été août.
Mm-hmm.
Après ça, ça a été fin septembre. Mm-hmm. Après ça, ça a été au début du quatrième trimestre. Là, ça a été avant la fin de l'année. Ils ont reconnu à mot couvert la semaine dernière que ça ne serait pas en décembre, ça va être probablement en janvier. Si tout va bien... Okay.
Est-ce qu'il reste des transporteurs qui n'avaient pas déjà repoussé leur date de remise en service?
Pas à ma connaissance. Puis la prochaine ronde de les prochaines dates pour repousser, là, ça s'en vient. Là, d'ici quelques semaines, on va apprendre qu'ils repoussent ça en avril, mai, juin.
Mm-hmm.
Regarde.
Mais quand même, là, quand t'as des appareils, excuse l'expression, parkés depuis un an, là, des actifs de ce genre de prix-là, oh!
Écoute, moi, je ne suis pas capable de voir comment est-ce qu'ils vont passer l'année 2020 sans prendre pas une tasse d'eau. un galon, ils vont boire le galon au complet, ils s'en vont vers une année déficitaire. Je ne comprends pas comment, en tout cas, ils vont passer à travers cette année-là sans aide gouvernementale. Ça va être difficile dans les deux prochaines années pour Boeing. Moi, c'est clair.
J'ai même pas regardé dernièrement, mais je suis curieuse de voir comment se comporte le cours de la compagnie, de l'action.
Écoute, ça, c'est le plus grand mystère.
Encore?
Il est à...
Parce que quand tu dis ça parce qu'il n'a pas bougé et que c'est positif encore.
Ouais,
là.
Ben, la semaine passée, il était descendu à 345$.
Mm-hmm.
Après les mauvaises nouvelles de la fin de semaine, il est monté à 355$. Et il y a quelqu'un, un gars avec qui j'ai échangé en fin de semaine, quand j'ai envoyé l'article, j'ai envoyé le communiqué de presse, il m'a répondu à la blague. Ben voyons, André, tu sais très bien que ce genre de nouvelles va avoir un effet positif sur l'action de Boeing, qu'elle va monter.
C'est du wishful trading, là. C'est quoi ça?
On le sait pas. On pense que les gens supportent le titre parce qu'ils ont toutes peur de perdre...
Ils ont peur que la bulle explose. Là.
Ils ont peur de perdre... Il y a bien des firmes de gestion d'actifs mobiliers, donc des fonds de placement,
Ça,
là, ils ont toutes la crainte de perdre énormément avec l'action.
Je serais très curieuse de voir le pourcentage de short sur cette action-là actuellement.
Puis, n'oublie pas que c'est une action qui fait partie du Dow Jones, l'indice Dow Jones industriel. Hein? Et c'est une action importante dans le Dow Jones industriel. Donc, si l'action tombe, le Dow Jones pique du nez.
Et ça veut dire que tous les fonds indiciels avec lui. Ah, oh, ça va être super!
Ça, c'est une partie. Maintenant, mettons que tu sais qu'il commence à manquer de place pour stationner les MAX, là. Hein?
Ouais, j'imagine, oui. Le désert est plein.
Le désert est plein d'avions vides. Ouais.
Super.
Un beau petit jeu de mots aussi. Ouais. Puis on dit que la nature craint le vide, hein.
Mm-hmm.
Fait que je sais pas ce qui va leur arriver, mais il va se passer de quoi. Mais ils ont plus de place. Février, il faut qu'ils arrêtent la production anyway. Parce qu'il n'y aura plus de place pour les mettre.
De toute façon, si je comprends bien, le marché est saturé sur la revente actuellement. Il y a beaucoup de monde qui essaierait de s'en débarrasser.
Eh oui. Puis l'autre nouvelle, qui, comme si ça n'allait pas assez mal pour Boeing, l'autre nouvelle qu'on constate, quand on analyse les chiffres de vente, de livraison des deux, trois dernières années, Boeing est en train de se faire, sur le marché des monocouloirs, Boeing est en train de se faire ramasser par Airbus. Mais pas à peu près. Si tu prends tous les avions monocouloirs, c'est-à-dire B737, toutes les variantes, là, les NG, 600, 700, 800, 900, A320, A321, A319. Si tu prends toutes les variantes Néo, Ancien, Max, NG, il y a à peu près 14 000 appareils en service en ce moment.
Mm-hmm.
Okay? Là-dessus, il y en a 7 500, c'est des avions Airbus. 319, 320, 321. Okay? Mm-hmm. Puis les autres, donc l'autre 6 500, c'est Boeing. Donc en ce moment, Airbus a 54% du marché du monocouloir.
Mm-hmm.
Ils ont 54% du marché monocouloir aujourd'hui parce qu'on prend compte des livraisons des 20 dernières années.
Mm-hmm.
Mais pour
pas de leur perspective future.
Mais si tu tiens compte juste des livraisons puis des ventes des 5 dernières années,
mm-hmm.
Oups! Ça commence à mal aller pour Boeing. Ça commence à très mal aller pour Boeing. Et ils sont en train, les ventes en ce moment, là où Boeing se fait ramasser, c'est avec l'A321 LR XLR,
mm-hmm.
Okay, qui sont des versions modifiées de l'A321 NEO.
Mm-hmm.
Parce qu'à un moment donné, les compagnies aériennes ont dit, on aime l'A321, c'est un bon avion, on fait de l'argent avec, c'est quasiment une planche à billets, tu sais,
mm-hmm.
Comme tellement c'est rentable. Alors, les compagnies disent, on l'aime cet avion-là, on en veut plus.
Mm-hmm.
Pourrais-tu nous le rendre de capacité transatlantique?
Mm-hmm.
Parce que quand l'avion est utilisé, par exemple, le meilleur exemple qu'on va donner, c'est Transat. Transat avec des 321 LR, l'hiver a fait du nord-sud,
mm-hmm.
Des destinations soleil, avec des mm-hmm. avions de 199 passagers, ils remplissent, plutôt qu'un 737 ou un 320 à 180 ou 160 passagers. Ils remplissent l'avion à 199 passagers et l'été, ils font S-Ouest, ils traversent l'Atlantique avec. Fait que ton avion, tu peux l'exploiter sur des routes continentales ou en tout cas des mm-hmm. de longues routes continentales. Puis en saison opportune, tu peux l'opérer sur des routes transatlantiques.
Mm-hmm.
Le gros avantage d'avoir, par exemple, un 321 LR versus mm-hmm. un 330, même Néo 900,
mm-hmm.
c'est le coût. pour le coût d'achat d'un 330 Neo, tiré 900, donc les rotations qui se vend, on ne parlera pas du 800, il ne s'en est pas vendu à peu près à date. C'est plus élevé que l'achat de deux A321 Neo LR, OK? C'est plus élevé, c'est à peu près 40 millions plus élevé. Ou en tout cas, un 10 à 20% plus élevé. OK? Mais avec deux A321, tu transportes 400 passagers. Puis avec ton 330-900, tu es à 350-375 passagers.
C'est clair que ton coût 1000 sièges est vraiment plus intéressant.
Au niveau du capital,
plus la flexibilité.
Au niveau de l'investissement en capital, tu as plus de sièges. Puis l'avantage, c'est que tes 321, tu as plus de flexibilité. C'est plus facile rentabiliser un 321 de 199 places qu'un 330 de 375 places. On s'entend quand dans la saison creuse, entre Montréal et Paris, ou même on ne prendra pas Montréal-Paris, ça, c'est pas un bon exemple. On prend Montréal-Lyon, Montréal-Bordeaux, Toulouse. Dans la saison creuse, c'est difficile de remplir un 330. C'est facile de remplir un 321.
Absolument.
Donc, c'est ça, cette évolution-là du marché que Boeing n'a pas saisi avec le MAX. Il n'y a aucun MAX en ce moment capable de faire plus que 3500 milles nautiques avec 199 passagers à bord. Donc, tu n'as pas de MAX vraiment transatlantique.
En admettant que les passagers soient à l'aise d'embarquer dans cet avion-là, ce qui arrivera probablement plus jamais, mais c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire. Mais là, on va...
Juste du côté technico-commercial, technico-commercial,
c'est un gros... Alors, Airbus est en train de prendre l'ascendant sur Boeing de ce côté-là.
Et faisons un petit peu d'histoire là-dessus. Là. Est-ce que c'est parce que Airbus a donc bien eu de la vision il y a 10-15 ans? Ou c'est le contraire? C'est Boeing qui n'en a pas pantoute? C'est ni l'un ni l'autre? C'est toutes ses réponses?
C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que Boeing avait fabriqué le 757, OK? Dont ils ont arrêté la production en 2005. OK? C'est quand même pas si loin que ça, là, 2005. C'était un avion de 200 places. Le 757-200 contenait 200 passagers. Il pouvait faire 3900 milles nautiques. Exactement le marché de la 321 LR XLR. OK? Et ils en ont vendu au-dessus de 1000 copies. Mais Boeing, s'ils n'en vendent pas 5-6 000 copies, ils trouvent que c'est pas rentable. Ils ont arrêté la production.
C'est
vrai que l'output n'était pas assez élevé. OK?
Ah! Intéressant.
Puis, mais les compagnies aériennes...
Sans compter que le marché a changé, par exemple.
Le marché a évolué pendant ce temps-là. Puis, les avions monocouloirs, là, ils ont pris de l'ascendance, ces avions, ce qu'on appelle les white body, les avions, les gros porteurs, parce que, pour les raisons que je t'ai données tantôt, ils sont beaucoup plus flexibles. Tu as un meilleur retour sur l'investissement, tu peux faire plus de route, faire tellement plus de choses, avec un bon 321 ou un bon 737. Tu peux faire tellement plus de choses. Alors là, les compagnies aériennes ont développé, ils ont utilisé le monocouloir. Puis là, ils disent, ben maintenant qu'on est capable, qu'on est à l'aise avec le 321 ou le 737, on aimerait ça aller plus loin avec parce que c'est rentable. Et c'est là où Boeing n'a pas écouté parce que ça fait trois ans que j'entends parler de ce qu'on appelle le NMA. C'est que Boeing travaillerait sur un new middle of the market aircraft parce que le marché des avions de 200 à 300 passagers avec une distance franchissable d'environ 4000 à 5000 milles nautiques, on appelle ça le milieu du marché. C'est entre le gros porteur, entre le monocouloir traditionnel. C'est pas un marché énorme, c'est pas le même marché que le 160 passagers ou 180 passagers, mais il est là. Puis ça fait trois ans que Boeing tourne en rond, qu'il se dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ça? On va-tu lancer un avion de 200 à 300 à 60 passagers pour remplacer le 757 puis le 767? Ou on va lancer un nouvel avion de 180 à 240 passagers pour remplacer le MAX puis le 757? Ils ne savent pas.
Mais là, ça veut dire qu'il n'est pas sur la planche à dessin encore, là. Où on a plusieurs possibilités puis on choisit pas?
Ils sont pas encore décidés, ils savent pas ce qu'ils veulent faire encore.
Mais là, une fois que c'est décidé, ça prend 10 ans à sortir, là.
Boeing dit que ça y prendrait 5 ans à sortir un nouvel avion.
En même temps, ça voudrait dire que ce serait du réchauffé?
Ben, écoute, s'ils font un avion neuf, entièrement nouveau, en dedans de 5 ans,
no way.
On regarde juste combien ça a pris de temps sortir le 787, les retards. Boeing n'a jamais livré un avion à temps depuis je sais pas, regarde, tu me niaises, là, tu vas vivre 105 ans, là.
Puis là, on parle que c'était, de toute façon, c'était des avions réchauffés ou le
set, c'est pas supposé être du réchauffé, c'est supposé être planche à dessin neuf.
Ah oui, hein?
La seule façon qu'ils vont réussir à faire ça en 5 ans, c'est Embraer. Embraer a réussi à livrer des programmes d'avions neufs dans les délais prescrits. Mais même encore ça, tu réussis à en livrer.
Ben, des avions neufs. Duquel tu parles?
Ben, l'E-Jet, le 2, c'est tous des avions qui étaient en...
Okay.
En livré.
Puis c'était des from scratch. Là,
ben, le 2, c'était pas un scratch, mais il y avait...
C'était une remotorisation.
Il y a plus que ça là-dedans.
Ah oui, hein?
Les ailes avaient été refaites.
OK, OK.
Le poste de pilotage de l'avionique a été refait. Il y a plein de choses qui avaient été refaites sur le 2. Donc, c'est pas du scratch, mais tu sais, c'était comme...
Ouais, ouais.
Regarde, ça leur a pris moins que 5 ans à livrer les avions, tu sais.
Je comprends.
Alors, on voit pas où comment Boeing va réussir à livrer effectivement un avion neuf en 5 ans. Et de toute façon, l'avion n'est pas annoncé encore. Puis là, depuis la crise du MAX, les compagnies aériennes...
Acheter sur une planche à dessin Boeing, là, actuellement? En tout cas, maybe it's just me.
Ben, non, mais tu soulèves une bonne question, on le sait pas. Ce que les compagnies aériennes clientes de Boeing ont commencé à dire depuis la crise du MAX... Commence à penser à remplacer ton avion, ton 737, mon grand, là. Fait que là, la dynamique, il était pas sûr ce qu'il allait faire. Mais là, tout d'un coup, est-ce qu'on lance un remplaçant du MAX? OK, c'est quoi tu veux? Là, Boeing n'a pas l'air de savoir ce qu'elle va faire encore.
Ouf! Ouais, comme si leurs problèmes commerciaux n'étaient pas déjà assez intenses.
Puis pendant ce temps-là, OK, Boeing, Airbus, elle vend des avions. Puis...
est en train de saturer le marché. Puis étrangement, il y a toute une nouvelle... Ben, pas étrangement. Il y a toute une catégorie de clients... Tu sais, normalement, en marketing, en général, on pense qu'un client qui est déjà acquis, c'est plus facile. Là, ce qu'on sait, c'est que les clients déjà acquis de Boeing vont volontairement essayer de choisir autre chose que Boeing pour réduire leur risque.
Oui.
Donc, alors que normalement, il devrait avoir une piste d'atterrissage avec des clients presque assurés pour un nouveau programme intéressant, là, on sait que ce sera absolument pas le cas, même au contraire.
Et là, tu soulèves, parce qu'on voit que Boeing, en ce moment, je comprends qu'ils veulent absolument relancer le MAX, puis livrer, remettre en service les quelques 800 avions qui sont parqués partout à travers la planète. Là.
Mm-hmm.
Je comprends qu'il y a tellement d'argent là, que c'est une priorité, OK? Mais il est fini, man, ton avion. Allume!
Combien en avait encore en commande?
Il y en avait 4500 au moment où la crise a débuté. OK? Il y en a... Alors, je comprends cette dynamique-là, mais c'est utopique de penser qu'ils vont en livrer 4500. Là. C'est fini, c'est radié, là. Quand ils vont en avoir. Moi, je pense pas que ça va jamais dépasser 1000. Je pense que l'avion va retourner en service brièvement, mais ça ne dépassera pas 1000 avions livrés. Okay?
Il y en a déjà 800, 700, 800?
Et voilà. Ils sont déjà. Et oui, ils sont déjà presque tous fabriqués.
Oui, ouais, ils sont stationnés dans le désert vide.
Alors,
plein d'avions.
Mais je comprends en même temps, c'était à la tête de Boeing de vouloir remettre cet avion-là en service parce que les conséquences d'arrêter la production du MAX et de dire c'est fini, on en produit.
Oh, les pénalités
plus.
Seraient titanesques.
C'est gigantesque. Mm. Mais là, il faut qu'en même temps que tu t'occupes de ça, il faut que tu règles le problème des pickle forks sur le NG. Il faut que tu règles tes problèmes sur le 777X. Il faut que tu trouves une solution pour le réussir à le livrer à temps parce que le développement du 777X, la date de livraison, là, le début des essais, là, c'est douteux, là, tu sais. T'as ça à régler. T'as encore des problèmes de qualité avec le 787 à l'usine de Renton. T'as des problèmes de qualité avec les versions militaires du 767, le KC-46. Ah, t'as un paquet de choses à régler, là, tu sais. Puis il faut que tu développes un nouvel avion. Même ton 737 Max, il est fini. Il faut que tu penses à qu'est-ce qu'on va développer, puis comment, puis à quelle vitesse.
Hey, les résolutions 2020 de Boeing, là, c'est...
Mais en tout cas, regarde, moi, je pense que ça va... Il va falloir remplacer des gens au conseil d'administration de Boeing, c'est clair, à la direction de Boeing.
Au conseil d'administration, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que jusqu'à maintenant, c'est le conseil d'administration qui arrête pas de dire « Non, le président a toujours notre confiance. » En même temps, c'est comme « Mais peut-être que c'est votre jugement qui est un problème. » là.
Il y a la vôtre, mais ils n'ont pas la mienne. Puis moi, je pense que la direction de Boeing doit être remplacée. Tu sais.
Mm-hmm.
Et le sauveur, il va coûter cher. Là.
Oui, j'imagine, parce que la prime de risque
le
sur
risque
le
est
titre...
énorme. Là, écoute, le risque est énorme. Alors, tout ça... Puis moi, l'autre chose qui me dérange, c'est que au cours des 10 dernières années, Boeing a déposé une plainte contre Airbus après qu'il ait remporté le contrat des avions d'avitaillement.
Mm-hmm.
OK? Ils ont gagné. Mm-hmm. Ils ont déposé des plaintes à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, mm-hmm. contre... Ils se plaignent qu'Airbus est subventionné.
Bombardier, Airbus.
Puis Boeing se plaint, dans le fond, d'être victime de concurrence déloyale de la part des fabricants étrangers parce qu'ils disent que les fabricants étrangers sont subventionnés, mais pas eux autres. Mais en même temps, la compagnie la plus rentable, le fabricant d'avions le plus rentable des 10 dernières années, c'est Boeing. Ils font des profits. Ils ont fait des profits records. Comment tu peux te plaindre d'être victime de concurrence déloyale quand tu fais des profits records? Moi, j'ai jamais vu une situation comme ça. Habituellement, les gens qui se plaignent de ça, les compagnies qui se plaignent de ça...
sont en mauvaise posture.
Et voilà.
Mais en même temps, quand t'es un bully, pourquoi tu t'arrêterais quand t'as déjà bulldozé tout ce qu'il y avait autour? Ça me fascine comme situation, comme philosophie d'affaires.
Oui.
Not in a good way, on s'entend, là?
Oui, oui, mais moi, je trouve ça absolument ironique, tu comprends? Voyons, t'es victime de concurrence déloyale, mais tu fais des propres...
Mais ils font ça sans rire, là. On s'entend, là.
Ah, sans rire, très sérieusement.
Tu sais, ils ont quand même demandé des sanctions contre un avion pour lequel ils n'avaient aucun produit concurrent. Tu sais, on appelle ça... Tu parlais de la terre brûlée. Savais-tu qu'on parlait de ça la dernière fois?
Ouais.
C'est un peu ça, là. Je vais tout brûler autour, peu importe. Plus,
mais tu viendras pas jouer dans mes plates-bandes.
Même pas dans 15 ans, tu sais.
Puis, je t'avais mentionné, moi, je comprends pas quand tu vends partout à travers la planète, comment tu peux partir des guerres commerciales en espérant les gagner.
Mais de toute façon, tout le monde le sait, les guerres commerciales, c'est pas bon pour personne. Jamais.
Et la chose qu'on a appris dernièrement, c'est que depuis 2018, sais-tu combien de commandes fermes Boeing ont reçues de la Chine?
Non.
Quel est le chiffre le plus mystérieux en mathématiques?
Zéro.
Et voilà. Hein, parce qu'on a toujours de la misère à définir c'est quoi exactement.
Absolument.
Le zéro.
Sauf que là, Boeing nous offre un cas de figure. Là. C'est quoi zéro? C'est Boeing en Chine.
Ils ont peut-être signé des lettres
d'intention
venant de compagnies non identifiées. Fait qu'on ne peut pas garantir que c'est des compagnies chinoises. Mais même là, le nombre...
Ouais, mais tu sais, ça doit pas représenter un volume extraordinaire non plus, là.
Ouais, mais de toute façon, si c'est des compagnies chinoises, tant que le gouvernement chinois ne donnera pas l'autorisation, au bout de ça, il n'y aura pas de commande ferme. On mm-hmm. est en Chine, on n'est pas au Canada, on n'est pas... Tu sais, regarde, le gouvernement, là-bas, il peut imposer les choix des compagnies, OK?
Absolument.
Donc, ça fait 2 ans que c'est signé aucune commande ferme en Chine. Ça explique pourquoi Boeing est obligé de ralentir la cadence de production du 787, ils passent de 14 à 12 avions par mois l'année prochaine parce que, comme ils n'ont pas reçu de commandes de Chine, ils livraient là, sur les 14 avions par mois, tu en avais grosso modo toujours 2 qui s'en allaient en Chine. Donc,
24... Ah ouais, hein? Je pensais pas que ça représentait aussi bon marché que ça.
Sur 2 avions par mois, 24 787 par année en Chine. Là, tu n'as pas eu de nouvelles commandes, puis comme il faut que tu prennes la décision un an avant, là, ils n'ont pas de commandes. Fait que la décision a été annoncée dernièrement, mais donc l'année prochaine, la cadence de production du 787 ralentit, ils n'ont plus de commandes en Chine. Et là, moi, je suis tombé sur quelque chose ce matin, parce que pour les auditeurs, on a enregistré cette émission aussi le lundi matin,
mm-hmm.
contrairement à nos traditions. Et là, je suis tombé sur un article du Figaro, qui lui-même a repris un article du Financial Times. Le gouvernement chinois a ordonné aux entreprises chinoises de se débarrasser de tout matériel informatique provenant des États-Unis. On parle ordinateur.
Ouh, on a peur de la surveillance un petit peu?
Ben,
et aussi toute la question d'encourager le commerce américain. Là.
Ben, c'est ça. Et c'est clair, s'ils veulent avoir des laptops en Chine maintenant, ça va être des Lenovo. Il n'y aura plus rien de fabriqué aux États-Unis. Et tout ce qui va être utilisé. Puis ils veulent avoir des logiciels américains. Ça veut dire Windows dans la poubelle.
Oh, ça va coûter cher, ça. Mais quelle... Ah, oh, je m'excuse, là, mais quelle idée à la con. C'est n'importe quoi.
Mais là, moi, je te dis ça parce que... Mais là, après ça, t'as dit le mot à la con. Est-ce qu'il va falloir que tu mettes un disclaimer?
Absolument, okay. Faut que je mette un disclaimer. Cet épisode-là est rendu pour adultes seulement.
Bon, ça veut dire que je peux me défouler après. Mais... Et j'amène ça parce que ça fait quelques mois déjà qu'il circule une rumeur, comme de quoi le gouvernement chinois dit « Tu veux une guerre commerciale, c'est bien. » Il aurait décrété à un moment donné pas un avion de Boeing qui va rentrer neuf, qui va être acheté.
Mm-hmm.
Pour les 5 prochaines années, vous êtes banni des commandes en Chine.
Mm-hmm.
Je trouvais ça gros un peu, mais en même temps, tu sais, mais cette nouvelle-là de ce matin, et cette nouvelle-là a été confirmée, c'est le Parti communiste chinois qui a sorti cette idée-là, puis le Parti communiste chinois, ben, habituellement, quand ils prennent une suggestion, c'est pas long que ça percole. Hein,
ça devient un ordre assez rapidement, oui.
Mm-hmm. Non, ils donnent pas d'ordre, ils donnent des suggestions soulignées. Mais, alors, on peut s'attendre à ce que cette directive... Ça donne du poids à cette rumeur-là, tu comprends?
Absolument.
Là, ça veut dire que Boeing, là, peu importe ce qui va se régler, ce qui va se décider dans les prochaines semaines,
mm-hmm.
dans les prochains mois...
Ça change rien.
Ça change rien, man. Garde-les tes avions, on n'en veut pas.
Mais là, il y a aussi que une fois que tu as pris l'habitude de travailler avec autre chose, que tu as établi des relations avec d'autres gens, la même chose qu'ils ont fait, en fait, avec le Soya, à partir du moment où ils ont organisé des pipelines de fournisseurs mm-hmm. ailleurs... Pourquoi je retournerai aux États-Unis me mettre à risque?
Ben voilà.
Sans compter la question de la qualité des produits eux-mêmes, ce qui avec Boeing est un enjeu, mais...
Ben, et c'est ça, les compagnies chinoises pouvaient toujours argumenter avec le gouvernement chinois dans le passé. Oui, mais tu sais, regarde, comment qu'on pense pas qu'ils sont rendus là encore au niveau qualité? On a mieux acheté du Boeing pour l'instant, puis quand... Ouais, mais là, mon gars, tant qu'acheter quelque chose qui n'est pas fiable, on va acheter du chinois, tu sais.
C'est ça. Non, je ne sais pas s'ils l'ont argumenté de cette manière-là devant les dirigeants, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire.
Ben, c'est ce que les dirigeants chinois peuvent dire, mais.
Oh, absolument.
Regarde, tu vas prendre du chinois, là. Oublie ça,
Boeing. À risque équivalent, on va prendre du chinois.
Ouais, exactement. Puis c'est clair qu'en Chine, il y a certainement beaucoup de gens qui doivent dire maintenant, « Hey, Boeing, c'est de la scrap. »
Ben, j'aurais tendance à penser que oui, là.
Tu sais? Puis, il y a comme, tu sais, et comme c'est un étranger, tu sais, c'est un étranger, alors.
Absolument.
Puis, l'arrogance avec laquelle ils mènent une guerre commerciale en ce moment,
oui.
Les déclarations,
oui.
Fait en sorte que c'est encore plus facile de dire, hey, c'est de la scrap, Boeing.
Absolument.
Sociologiquement, là, t'es dans une mauvaise dynamique.
Mais vraiment, il faut que t'aies du front tout le tour de la tête pour dire, je suis tellement indispensable que je vais pouvoir faire n'importe quoi, puis personne ne va rien pouvoir dire. Arrogance, hein, on disait?
Oui, arrogance.
Alors, ouais.
Ça vient se rajouter à tout le reste.
Mm-hmm.
Et là, en ce moment, Boeing est en sérieuse difficulté. Elle n'a pas d'option face à Airbus.
Mm-hmm. Puis, c'est pas le deal avec Embraer qui va régler ça. C'est pas sur le bon segment.
C'est pas sur le bon segment. Le 2 est trop petit de toute façon
mm-hmm.
pour vraiment être. Il est trop petit, puis la distance franchissable n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il est trop, le range est trop petit. Il n'est pas assez polyvalent.
Mm-hmm.
Il faut que tu le gardes. Tu achètes ça juste pour des petites routes. C'est probablement le 295 qui va se vendre parce que dans le 100 à 125 passagers, oui, il est moins cher un peu à opérer ou il est comparable au à la 220-100, pardon. Mais c'est vraiment là. Puis Embraer a toujours dit que le 2, il était rendu au maximum. Ce programme-là, il était...
Lui, il a été étiré, là. C'est réglé. Là.
C'est réglé, c'est fini. Ils disent on ne peut plus l'étirer, ce programme mm-hmm. d'avion-là. Ça prend quelque chose de neuf. Donc, ils ne régleront pas le problème dans le bas du marché, dans le 135 à 160 passagers. Ils ne peuvent pas régler le problème avec Embraer.
Est-ce qu'on envisage que peut-être Embraer soit en train d'essayer de se mettre les pieds dans ce segment-là, justement?
Bien...
Il me semble que ce serait wise, là. Il y a une ouverture.
C'est clair que, de toute façon, à partir du moment où la transaction va être approuvée, ça va devenir Boeing Brésil.
Ouais.
Le nom est déjà sur les... déjà apposé sur le hangar. Donc ça, à partir
arrogance.
Boeing Brésil, ouais.
Non, mais juste le fait que ce soit apposé avant d'être accepté.
Airbus a eu la décence d'attendre que ça soit le 1er juillet. Alors, Boeing Brésil, c'est clair que beaucoup de gens disent, ben là, c'est les ingénieurs de Boeing Brésil qui vont développer le prochain avion. Parce que de toute façon, pour devenir la compagnie la plus rentable, ben, est aussi rentable, Boeing, elle a coupé beaucoup dans sa main-d'œuvre des dernières années.
Mm-hmm.
Elle a beaucoup coupé dans ses ingénieurs.
Mm-hmm.
Évidemment, quand tu coupes les plus hauts salariés, donc les plus anciens,
mm-hmm.
les plus performants,
mm-hmm.
les meilleurs.
Mm-hmm.
Fait que toute la connaissance,
l'expertise la,
est partie. Ils n'en ont plus, Boeing. Ils ne sont plus capables de développer de nouveaux avions. Fait que ça va être développé. Embraer, eux autres, le gouvernement du Brésil, ils disent OK, on va te faire les dessins de l'avion, mais ton avion, tu vas en fabriquer ça, mon grand.
Ben, da.
Il y a une grosse compétition qui s'en vient. Et Boeing ne veut pas en parler en ce moment. Ils tiennent ça secret.
Il n'y avait pas vraiment le choix de faire le deal avec Embraer, mais en même temps, Embraer avait le gros bout du bâton. Là.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est être obligé de remplacer le Max aussi vite que ça.
Ouais.
Et là, ben, ça tombe comme à point pour eux autres. C'est Embraer, c'est le Brésil qui va sauver Boeing peut-être.
Quand même, hein? Qui l'eût cru?
Et voilà. Et là, ça va être la grosse chicane aux États-Unis parce que la journée que Boeing va dire ils vont faire fabriquer aux...
Absolument.
Ben là, moi, ce que je vois venir...
Délocaliser c'est... de la production américaine d'une entreprise américaine, Saint-Seigneur.
Ça va être une grosse histoire. Puis là, ils vont broyer, ils vont dire « Oui, mais je suis pas compétitif parce que mes compétiteurs, eux autres, sont subventionnés. On gâche-tu?
CQFD, oui, oui, regarde. Sûrement. Puis de toute façon, quand t'es dans une mentalité de « C'est jamais de ma faute, puis c'est pas moi, puis c'est les autres, puis moi aussi, je devais... » Fine, reste avec cette idée-là. Ouais, tu vas finir par te planter. Tout ça, c'est en présumant que d'ici là, ils frappent pas un mur tellement intense qu'il ait besoin d'être bailé out puis qu'ils finissent par se faire dire quoi faire par le gouvernement américain.
Oui, parce qu'on s'entend. Moi, je te disais tantôt, février, il faut arrêter la production du 737 Max.
Mm-hmm.
Ça, c'est la prochaine tragédie de Boeing.
Ouais.
50 000 personnes minimum qui perdent leur emploi. Des compagnies qui font faillite et ça a des répercussions.
Des fournisseurs et tout. Là. Ouais,
il y a absolument. Des fournisseurs ici. Là. Moi, je pense à Aviar, à Laval. C'est un fournisseur de pièces de structure du 737.
Oui, absolument.
Et en ce moment, ils sont encore à produire, comme tous les fournisseurs, pour 42 avions par mois.
Est-ce que c'est... Je ne sais peut-être pas. Là. Est-ce que c'est eux qui assument les inventaires en attendant?
Là, je pourrais pas te dire. C'est clair
ils sont
que
à c'est... risque, là. C'est intense comme situation.
Les fournisseurs, y a, même s'ils n'assurent pas les inventaires, à partir du moment où tu arrêtes la production, il y a eu
Absolument.
Des investissements importants dans
Absolument.
Les trois dernières années pour être capable d'amener la production du Max à 62 avions par mois.
Mm-hmm.
Okay? Mm-hmm. Ça ne s'est jamais rendu à là parce que quand il était rendu à 52 au printemps passé, la crise du Max, on a rendu à 42.
Mm-hmm.
Fait que tout l'argent qui a été investi, la capacité de production qui a été achetée par les fournisseurs...
On n'a pas rentabilisé ça encore. Là.
Ben non, parce qu'on n'a pas monté la production, on l'a ralenti même.
Ouais.
On a moins de revenus que ce qu'on était supposé avoir, puis on a dépensé plus. Fait que tout le monde est à risque. Tout le monde est comme commence à avoir être à côté, là, avoir le menton, l'eau, c'est rendu au menton. Là.
Oui, puis avec deux grands donneurs d'ordre, c'est pas vraiment facile de... Hey, je sais même pas comment on dit ça en français. Comment on dit « edger ses bêtes »
De couvrir ses risques.
T'as raison, exactement, de couvrir ses risques, ouais.
C'est très difficile, puis de toute façon, dans l'aviation, dans l'aéronautique, tu peux pas te retenir de bord et t'en aller travailler sur l'autre programme dans deux mois, là, c'est impossible.
Non, vraiment pas.
Tu peux pas devenir fournisseur du 320 le mois prochain. Là.
Non, à la limite, tu peux travailler sur les programmes futurs, mais ça veut dire que dans 5 ans, tu vas avoir un contrat de 10 ans. Tu sais, c'est pas... Non, on se comprend. Là. C'est pas une bonne situation du tout.
Puis pendant le développement du programme, tu touches pas une scène. Ça veut dire que si tu décides d'embarquer sur un nouveau programme, il faut que tu réinvestisses.
C'est un autre risque, oui.
Puis pendant 5 ans, tu feras pas une scène avec. Tu n'auras pas un revenu avec. Non seulement tu ne feras pas une scène, tu n'as pas de revenu de ce programme-là pendant 5 ans minimum.
Comment ça se fait qu'on aime ça comme ça, ce business-là, André?
Ben,
c'est coupe-gorge un peu quand même. Là.
Faut être fou. Mais souvent, dans l'industrie aérospatiale, quand tu as de nouvelles compagnies qui veulent rentrer dans le domaine de l'aérospatiale, les gens leur demandent, tu sais, les gens d'Aéro-Montréal, des fois, ils rencontrent du monde. Ou, pourquoi tu veux faire de l'aérospatiale? Parce que c'est payant. c'est une façon polie. Ce que tu viens de faire là, c'est une façon polie de résumer, de dire que tu t'es trompé.
Eh mon Dieu, non. Je me rappelle d'avoir... discuter avec un ancien haut dirigeant de Transat qui disait « C'est pas glamour pour 2 cents et quart l'aéronautique. » Et si tu me permets de le citer...
Vas-y.
Dans la langue de Molière, non. Il avait dit « Be prepared to sell the shit out of those seats. » C'est ça, ce business-là.
Ouais, il faut que tu... il faut vraiment que tu ailles gratter les scènes, les revenus.
Ça ouais, a toujours que tu été travailles des... tes marges tout en restant concerné par la sécurité. Et...
Tu peux pas faire le compromis sur la sécurité parce que le compromis sur la sécurité finit toujours par te coûter plus cher. Mm-hmm. Les gens consciencieux, les gens qui comprennent dans l'industrie, puis il y a des gens qui sont capables, ça se fait ce calcul mathématique-là de dire la sécurité, ça te coûte moins cher à long terme.
Oui, absolument.
C'est plus rentable d'investir dans la sécurité que de couper.
Mm-hmm.
Donc ça, t'as pas le choix. Mm-hmm. Et puis, il faut toujours que la sécurité en aviation, il faut toujours que ça soit en haut de tout, au-dessus de tout. C'est intouchable. Ça devrait être intouchable. Intouchable.
Ben, tu sais, oui, j'avais entendu dire quelqu'un qui utilisait l'expression comme quoi c'était... c'est la condition sine qua non. Après ça, tu peux avoir des nice to have, là, mais ouais. Ça, il le faut. C'est pas compliqué.
Ça.
Puis même si tu vois pas le risque à court ou moyen terme, éventuellement, ça te rattrape. Ah, on aurait vraiment pas pensé, il y a 2 ans, dire Boeing est à risque de faire faillite dans les 5 prochaines années.
Ouais.
Qui nous aurait cru si on avait dit
non,
ça?
Non, puis Esther, on dit ça, puis on a même pas l'air de des perdus.
Oui, absolument. Et... on le souhaite vraiment pas, entendons-nous. Là. C'est pas ça l'objectif, ce serait mauvais pour tout le monde, ça aussi.
Il y a des mauvaises décisions qui ont été prises et malheureusement, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi pour payer pour ça, tu comprends-tu? Puis les gens qui font le travail
absolument.
Là, sont consciencieux, ils font bien le travail, ils méritent pas ce qui va leur arriver.
C'est pas ceux qui ont profité de ces prises de décisions cavalières-là qui vont payer pour les pots cassés. Mais... c'est un classique
dans notre système. Là,
ouais, exactement.
Mais c'est clair, il y a une série de mises à pied qui s'en viennent. Ça va être une catastrophe au niveau aéronautique. Puis pour des gens, c'est des emplois bien payés. Puis quand on sait comment le réseau social, le réseau de support aux États-Unis n'est pas très fort,
ouais.
Il y a... mm-hmm. Regarde, il y a...
ça va être dramatique. Là.
Ça va être dramatique. Ça va être vraiment dramatique. Alors, c'est pas drôle. Et voilà.
Ce serait bien qu'on puisse au moins profiter de cette opportunité-là pour faire un peu de recrutement au Canada. On avait déjà parlé de cette possibilité-là quand Trump avait été élu. Il y a beaucoup de gens, surtout du nord-ouest des États-Unis, qui avaient parlé d'émigrer au Canada à ce moment-là. Puis peut-être que d'établir une production à cet endroit-là, ou bien de rapatrier des gens au Québec, qui sait?
Ben, regarde, tout est possible. On a besoin de main-d'œuvre, on en manque, main-d'œuvre qualifiée.
Mm-hmm.
Il y a de la très belle main-d'œuvre qualifiée en ce moment qui vont se retrouver au chômage aux États-Unis. Ça serait. Regarde, ce serait l'occasion idéale.
Hey, on parle vraiment de mon image. En tout cas, on verra.
On est rendu loin un peu, t'as raison.
Mais ça fait le tour pour cette semaine, André.
Ah oui?
Ah oui, écoute.
Trop, non, c'est trop court.
Ben c'est ça, comme d'habitude, hein, on a beaucoup trop de plaisir. mais en fait, on va revenir sur d'autres sujets, bien sûr, au cours des prochaines semaines pour s'assurer de vous garder des petits épisodes punchés. Et pour l'instant, on vous quitte et on vous laisse en fait avec la chronique du prof Cormier.
La capsule du prof Cormier. Risque-t-on de voir un sauvetage gouvernemental de Boeing dans un avenir proche? Et quels seraient les tenants et aboutissants d'un tel sauvetage? Bonjour, ici Maxime Cormier, professeur d'économie au Collège Montmorency. Avec les multiples difficultés de l'avionneur américain, le risque d'une faillite devient tout à fait envisageable. Et trouver des acheteurs étrangers qui offriraient un bon prix reste peu probable, justement en raison des déboires judiciaires et financiers de Boeing. L'importance économique de Boeing, sa longue histoire et sa valeur stratégique justifient qu'on réfléchisse au moins un peu à la possibilité du sauvetage plutôt que de laisser l'avionneur couler. L'idée d'un sauvetage gouvernemental n'est pas du tout farfelue. De 2008 à 2011, le gouvernement américain a procédé à un coûteux sauvetage des constructeurs automobiles basés aux États-Unis en injectant des centaines de milliards en prêts avantageux, en rachats d'actifs et en participation sous forme de capital-action. Tout ça pour éviter les pertes d'emplois et les délocalisations. On se souviendra que l'ensemble de l'industrie avait manqué de vision en matière de recherche et développement avant 2008. Donc l'aide gouvernementale a été liée à une série de conditions en ce sens. Au bas mot, ça aurait coûté un montant de 10 milliards de dollars nets aux contribuables américains, une fois que les participations du gouvernement ont été revendues, à bon prix d'ailleurs. On pourrait aussi parler du secteur bancaire qui, avec son statut de « too big to fail », aura reçu 440 milliards de dollars en fonds publics en 2008 seulement, pour le libérer des mauvais actifs qu'il mettait à risque de s'effondrer. Au final, les contribuables ont été remboursés en totalité pour l'ensemble de ce sauvetage, on parle même d'un modeste profit au bilan. Et l'avionneur Boeing maintenant? On sauve ou on laisse couler s'il se retrouve au bord de la faillite? D'un côté, cette firme-là est le cœur de l'aéronautique aux États-Unis. C'est un monopole national aussi, un monopole des longs courriers depuis la fusion avec McDonnell Douglas. Par le fait même, Boeing est membre d'un duopole mondial des gros porteurs, face à Airbus, donc sa disparition complète signifierait que son principal compétiteur se retrouve à toute fin pratique en position de monopole, ce qui n'est pas terrible pour les prix et l'amélioration des gros porteurs. Du moins jusqu'à ce que les ambitions combinées des Chinois et des Russes y mettent fin. D'un autre côté, des faillites sans sauvetage gouvernemental, il y en a eu aux États-Unis. Pensons aux transporteurs aériens comme Pan Am, Eastern et Transworld. Est-ce que les États-Unis ont les moyens financiers de sauver Boeing d'une faillite éventuelle? Ben disons qu'avec un produit intérieur brut annuel de près de 20 000 milliards, une population de 325 millions d'hommes, parmi lesquels il y a à peu près 100 millions de contribuables, les États-Unis auraient assurément les moyens de sauver le géant de l'aéronautique. Puis si vous croyez que le gouvernement américain n'a plus de marge d'emprunt, il faut quand même garder en tête que les bons du Trésor américain, donc le principal titre de dette du gouvernement fédéral, ben ces bons-là trouvent encore facilement preneur avec des taux même plutôt bas, là, très très bas en fait. Donc la dette fédérale, aussi énorme soit-elle, semble pas avoir atteint un seuil critique malgré ce que disent certains. Le problème, c'est que c'est pas là qu'est la question en fait. Boeing a d'ailleurs elle-même déjà bénéficié de milliards de dollars en prêts, en garanties de prêts, en subventions. Peut-être qu'on parlerait plus de millions de dollars du côté des subventions nettes. L'enjeu, c'est qu'un sauvetage conditionnel à rien ouvre la porte à des futurs fiascos comme celui du 737 MAX. L'aide devra donc être conditionnelle à un profond changement de culture. Je vais faire un parallèle avec le secteur bancaire. En 1933, dans un contexte de dépression économique horrible, la loi Glass-Steagall est promulguée, puis ça crée une séparation super capitale entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Cette scission est plus que symbolique. Une banque d'investissement, ça gère du capital de risque, alors que les banques de dépôt se font confier l'argent des petits épargnants. La première, plus casse-cou, a la capacité de contaminer, donc faire couler la deuxième. Or, dans les années 90, on a annulé la loi Glass-Steagall. Puis pour bon nombre d'économistes, cette décision-là est à l'origine, ou du moins est une des causes importantes de l'effondrement bancaire de 2007, qui a précédé la crise économique de 2008-2009. Quel est le rapport avec Boeing, direz-vous? Pour l'analyste en politique publique Matt Stoller, il faudrait que le Congrès américain profite justement d'un sauvetage pour obliger Boeing à scinder définitivement ses deux principales branches. La branche civile, qui dessert surtout les transporteurs aériens, et la branche militaire, qui est intimement, très intimement liée au Pentagone. Pourquoi? Pour éviter qu'un contrôle politique, celui de la branche militaire, vienne continuer à corrompre le travail des ingénieurs de la branche civile, comme c'est le cas selon Matt Stoller depuis la fusion avec McDonnell Douglas. La branche civile, selon lui, manque d'indépendance, ce qui est surtout un problème au moment de développer les nouveaux modèles. Donc une scission nette entre le civil et le militaire pourrait s'avérer nécessaire, et ça pourrait être une condition qui est imposée en échange d'un sauvetage. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas une réforme qui donnera plus de poids aux ingénieurs et moins aux comptables autour de la table de dessin. Bref, l'idée d'un sauvetage de Boeing est économiquement fondée, financièrement possible, c'est même un scénario très probable, diront certains, dans l'optique que son maintien en sol américain a des avantages économiques et stratégiques assez évidents. Mais pour ça, un grand ménage dans l'équipe de direction est nécessaire et une scission entre le militaire et le civil sera considérée, sans quoi le gouvernement enverra les mauvais signaux ou les mauvais incitatifs, diraient les économistes, aux dirigeants. Et c'est là que les contribuables américains seront perdants. Une grande réforme de Boeing, sans laquelle des gros porteurs risquent malheureusement de continuer de tomber du ciel.
C'était notre épisode pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com et abonnez-vous à la page Facebook de l'Aéropod pour donner votre avis sur les sujets de la semaine. Si vous aimez l'émission, parlez-en à vos amis. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires, questions ou suggestions de sujets à l'adresse aéropod@mentoraero.com, par écrit ou encore en enregistrant un petit clip audio. De retour la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, toute l'équipe d'Aéropod vous souhaite une tempête de ciel bleu. Over.